a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplain.
Dimanche politique, l'actualité politique en France décryptée à présent sur RFI. C'est avec vous, Pierre-Adrien Bartoli, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur des études politiques au sein de Harris Interactive, un grand institut de sondage. Alors dans pile une semaine, le premier tour des élections régionales sera terminé à cette heure-ci. RFI sera alors en édition spéciale pour accompagner cette donne politique. Dernier scrutin avant l'élection présidentielle. Pour l'heure, les candidats font campagne. C'est ainsi qu'ils étaient nombreux ce matin à distribuer des tracts sur les marchés. Mariani était un usurpateur, un imposteur. Le président sortant et LR de Provence-Alpes-Côte d'Azur durcit le ton à son adversaire RN, donné en tête par plusieurs sondages. Alors, dans cette région, faut-il que la majorité fasse alliance avec la droite pour faire barrage à l'extrême droite ? Marlène Schiappa regarde ailleurs sur l'échiquier politique.
Face au Rassemblement National, on prenne ses responsabilités. Et je dis à la gauche, c'est bien beau de faire des manifestations contre les idées d'extrême droite, et vous avez raison, et le droit de le faire, et le droit de manifester est absolument fondamental. Maintenant, barrer la route à l'extrême droite, ça se fait concrètement dans les urnes, dans les rassemblements. Mais on voit à quel point c'est dur pour la gauche déjà de se rassembler entre elles, entre différents partis. Donc je ne sais pas si elle est prête à vraiment concrètement faire barrage au Rassemblement National.
Le RN qui espère réussir dans les urnes. Jérôme Rivière est député européen, membre du Conseil national du Rassemblement national. Il était sur France 3 à la mi-journée.
Les électeurs vont comprendre, vont voir, parce qu'ils le savent, que lorsque nous gagnons des exécutifs, ils sont bien gérés. Vous avez des villes, Fréjus et Nabomont, où ils ont été élus, réélus maires dès le premier tour. Nous avons gagné Perpignan, où depuis un an, avec Louis Alliot, les choses se passent très bien, et où des sondages démontrent régulièrement que les électeurs sont très satisfaits des choix qui ont été faits. C'est ça que les environs à l'échelle d'une région.
Pierre-Adrien Bartoli, cette dernière semaine sera-t-elle décisive ? Ou est-ce qu'on sait d'ores et déjà aujourd'hui ce que sera l'échiquier politique en région la semaine prochaine ?
Alors, on ne sait pas dès aujourd'hui ce qui va se passer, mais on a quand même quelques sondages qui nous donnent des pistes et qui nous montrent un petit peu des tendances, et on pourra les voir ensemble. Juste un chiffre à rappeler à ce stade. En 2015, on avait un tiers de l'électorat qui avait choisi son vote dans la dernière semaine. Donc, autant dire que ces derniers jours jusqu'à dimanche prochain peuvent être importants pour les résultats que nous verrons dans les urnes au soir du dimanche de premier tour.
Alors, votre institut de sondage a mené des études, forcément, dans les 12 régions. Quels sont les points forts à surveiller ? Tout d'abord, la question de la confirmation ou non des sortants.
Oui, le point des sortants est effectivement intéressant. Selon les régions, les situations sont un petit peu différentes, mais disons qu'au moins pour la gauche, trois régions détenues par la gauche effectivement donnent des scores plutôt intéressants et des intentions de vote plutôt intéressantes pour les sortants. En Nouvelle-Aquitaine, en région Occitanie et en région Bretagne, peut-être dans une moindre mesure, les trois sortants sont en mesure, même s'ils n'arriveraient pas en tête au premier tour, peut-être d'être élu au second tour, notamment parce que dans ces régions fonctionne encore bien le report de voix de la gauche sur un candidat unique au second tour. Donc la gauche se présente divisée au premier tour, mais néanmoins assez forte pour créer une dynamique. Et cette dynamique d'union, souvent des écologistes derrière le candidat socialiste ou de centre-gauche, permet de gagner la région, en l'occurrence de la conserver.
Alors d'actuels présidents de région se présentent à leur propre succession et avec derrière l'ambition de la présidentielle. Ça aussi, c'est à surveiller.
Bah, effectivement, il y a trois régions dans lesquelles on a ce qu'on appelle trois potentiels présidentiables. On pense évidemment dans les Hauts-de-France à Xavier Bertrand, à Valérie Pécresse en Ile-de-France et à Laurent Wauquiez éventuellement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans les trois régions, les trois candidats sont bien perçus et leur bilan est effectivement apprécié de la part des habitants, ce qui leur permet d'arriver dans les intentions de vote, encore une fois pour l'instant, en tête, voire largement en tête du premier tour. À nouveau, on voit là une dynamique qui se dessine et potentiellement trois responsables politiques qui pourraient être réélus dans leur région, encore une fois, au regard des données dont on dispose pour l'instant.
Et puis on vient de l'entendre avec les extraits que nous venons de passer, le RN, tout le monde regarde le RN, le Rassemblement National et ses chances.
Alors effectivement, le RN a fait un score très élevé en 2015, hein, rappelons-le, selon les régions, on dépassait parfois les 40%, donc ça va être compliqué pour le RN de renouveler ses scores élevés. Néanmoins, comme ils vont avoir en phase 2 une formation politique nouvelle qui n'existait pas, qui est La République En Marche, et donc qui permet de disperser les voix, et en plus un potentiel dysfonctionnement du Front républicain, c'est-à-dire des électeurs de gauche qui aimeraient moins venir voter pour un candidat de droite pour faire barrage au RN, ce qui a eu lieu en 2015 et ce qui a empêché ce qui s'appelait à l'époque le Front national de gagner certaines régions, donne des vraies chances au RN, notamment en PACA, où Thierry Mariani pourrait potentiellement remporter la région, peut-être en Grand Est, dans lequel les choses sont très serrées, peut-être également en Centre-Val de Loire.
Vous écoutez Dimanche Politique dans RFI Soir. Les immenses pelouses situées entre la Seine et les Invalides à Paris, noires de monde ces deux derniers soirs. La police qui intervient pour faire respecter le couvre-feu à cause du Covid-19. Et cette réaction de cette membre du gouvernement qu'est Marlène Schiappa, c'était sur Europe 1.
Il y a un retour progressif des jours heureux, si on peut le dire de cette manière. La vaccination avance, les terrasses rouvrent, la relance économique se profile. Mais le virus est toujours là. On est encore en train de porter des masques, il faut encore utiliser du gel hydroalcoolique. Tant que toute la population n'est pas vaccinée avec un seuil d'immunité collective important, je ne crois pas que la vaccination obligatoire soit la solution. Et j'observe qu'il y a d'ailleurs de moins en moins de gens qui sont sceptiques face au vaccin. Donc je pense que c'est ça la bonne solution.
Quant à Valérie Pécresse, qui se présente à sa succession en région Île-de-France, elle était sur BFM ce midi.
Si la situation sanitaire le permet, moi je suis favorable à ce qu'on élargisse le couvre-feu et qu'on donne une vraie respiration aux Français. En revanche, je pense que sur les gestes barrières, je pense que sur les protocoles sanitaires, on doit être intransigeant.
Pierre-Adrien Bartoli d'Avas Interactive. Quel est l'état d'esprit des Français? Car des jeunes fêtards ne font pas la population française.
Oui, et les Français ne sont pas exactement dans cet état d'esprit-là. Hein. Depuis le début de la pandémie, et ça se confirme encore aujourd'hui, c'est quand même l'inquiétude qui prédomine. C'est-à-dire que certes, on retrouve une forme de liberté, de vie qui pourrait rappeler la vie d'avant, mais néanmoins, les Français ont toujours peur des variants, qui sont nouveaux par définition, qu'ils ne maîtrisent pas, et donc d'une potentielle quatrième vague qui pourrait arriver. Et cette inquiétude, à un niveau personnel, pour leurs proches, pour la société, pour leur emploi, etc., font que les Français restent très favorables aux mesures de freinage qui sont prises par les pouvoirs publics, les passes sanitaires et autres. Et deuxièmement, ils continuent à dire, en tout cas au moins dans leurs déclarations, qu'ils font attention pour ne pas évidemment déclencher cette quatrième vague qui pour eux serait un problème. Et d'ailleurs, on n'a pas eu en France tout au long de l'année de mouvement anti. Même quand on parlait d'anti-vaccins, au fond, c'était surtout des Français un peu sceptiques qui ne connaissaient pas quels étaient les effets secondaires et qui voulaient attendre pour en savoir plus. Mais on n'a pas eu vraiment d'anti-masque structuré avec une récupération politique ou une structuration en mouvement politique ou dans une dimension plus importante, comme on a pu voir dans des pays comme les États-Unis. On l'a vu aussi parfois en Allemagne, à Berlin ou à Leipzig et autres. En France, on n'a pas ce mouvement anti qui s'est structuré, mais plutôt une inquiétude, une peur qui a prédominé, qui reste encore aujourd'hui très présente, quand bien même les mesures s'allègent et on le voit.
Est-ce le mieux sur la crise sanitaire et sa gestion par l'exécutif qui explique ce sondage IFOP hein, aujourd'hui dans le journal du dimanche, à savoir que les popularités d'Emmanuel Macron et de Jean Castex sont stables depuis un mois. Elles s'établissent à 40% pour le président de la République et 38% d'opinion favorable pour le chef du gouvernement.
Ben, ce qui est sûr, c'est que la popularité ou la confiance, selon la manière dont on le mesure dans l'exécutif, avait chuté après l'été, on va dire, en 2018, et surtout à la fin de l'année 2018, suite d'abord à l'affaire Benalla, et puis ensuite au début de la contestation des Gilets jaunes. Le président de la République a réussi à reprendre la main, notamment par le grand débat, et surtout à trouver une sorte de second souffle dans cette crise sanitaire, où le pays a su faire front derrière le président de la République. Alors encore une fois, on sait qu'en France, il y a une forte défiance et donc on est sur des niveaux qui oscillent entre 40 et 50% de confiance. Mais néanmoins, on a un retour d'une forme de confiance dans le président de la République, notamment à l'occasion de cette crise sanitaire.
L'actualité politique, ce sont aussi des croix gammées celtiques taguées à la bombe de peinture rouge et bleu sur des panneaux électoraux à Oulch, un village de 400 habitants dans l'Indre. Dégradation qui concerne tous les panneaux à l'exception de l'affiche des candidats du Rassemblement National. Mardi, le président de la République avait reçu une gifle lors d'un déplacement en province. Hier, c'était Jean-Luc Mélenchon qui s'était fait attaquer avec de la farine alors qu'il participait à Paris à une manifestation contre la montée de l'extrême droite, contre la limitation des libertés publiques également. Juste après son agression, Anne Souhaitement de RFI avait recueilli son premier commentaire.
Il ne m'a pas tiré dessus, c'est déjà ça. Oui, il y a une grande tension. Hein. Je vous ai dit, c'est vraiment un seuil qui a été franchi. Et maintenant, je ne sais pas si vous ne me voyez pas plus ému que ça. c'est peut-être parce que ça aurait pu être pire.
Ce qui résonne étrangement avec les propos qu'il tenait dimanche dernier, prédisant un grave incident ou un meurtre dans la dernière semaine de la campagne présidentielle. Un événement écrit d'avance, avait-il dit, ce qui avait suscité l'indignation dans la classe politique. L'agresseur d'Emmanuel Macron est en détention après avoir été condamné à 4 mois de prison ferme, moins de 3 jours seulement après son geste, d'où cette position balancée de Valérie Pécresse.
Le sentiment du deux poids deux mesures, du « quand c'est le président de la République, on est condamné immédiatement, on est mis sous mandat de dépôt, donc on va en tôle ». J'approuve, mais on ne peut pas ne pas avoir la même rapidité vis-à-vis d'un enseignant, vis-à-vis d'un médecin, vis-à-vis d'un pompier, et ne pas être indéfectiblement au soutien des forces de l'ordre. Ça me permet de dire qu'aucun de mes adversaires de gauche ne sont allés à la manifestation des policiers qui criaient leur désarroi et qui appelaient au secours. Donc voilà, voilà la gauche que nous avons aujourd'hui en Île-de-France.
Quant à Annie Genevard, qui est députée Les Républicains, vice-présidente de l'Assemblée nationale, elle était sur France 3 tout à l'heure.
Les coups et blessures volontaires ont augmenté de 23% en 3 ans. Donc on ne peut pas laisser cette violence contre les institutions, contre l'état de droit, continuer à prospérer ainsi. La gifle assénée au président de la République, l'enfarinage des responsables politiques, quant à un maire est agressé. Le maire était une figure de proximité respectée. Aujourd'hui, les maires peuvent être lourdement agressés. Certains y ont laissé la vie, d'ailleurs. Ça en dit long sur la montée en puissance d'une violence à l'égard de tous ceux qui
incarnent l'ordre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut changer la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc maintenant, c'est le temps du politique. Il faut restaurer l'autorité de tout ce qui fait le symbole de l'État, de nos institutions.
Pierre-Adrien Bartoli, comment expliquer cette montée de la violence dans l'expression politique?
Mais le fond, c'est évidemment qu'il y a une défiance vis-à-vis du politique qui est très forte, qu'elle n'est pas nouvelle, on la découvre pas, mais on la connaît. Et rappelons les chiffres, aujourd'hui, 9% des Français disent faire confiance aux responsables politiques, ce qui est évidemment extrêmement faible. Cette faible confiance, elle vient notamment du fait qu'on sent que leurs décisions ont un impact négatif sur notre vie. Encore une fois, au soir du second tour de l'élection présidentielle, 40% des Français nous disaient que l'élection d'Emmanuel Macron allait produire une dégradation de leur propre vie, ce qui est encore une fois un niveau élevé. Et d'une manière générale, dernière donnée pour comprendre un petit peu ce qui se passe, lors des événements des Gilets jaunes, nous avions interrogé les Français sur l'éventuel recours à la violence et 8% d'entre eux nous disaient « oui, c'est tout à fait légitime de recourir à la violence pour faire valoir ses propres idées », ce qui effectivement est un chiffre dans l'absolu faible, mais qui ne devrait pas exister dans une démocratie apaisée. Or, ce n'est pas exactement le contexte dans lequel on vit.
Merci pour ces analyses et commentaires. Pierre-Adrien Bartoli, directeur des études politiques au sein de Harris Interactive, pour Dimanche Politique.